Cacher la vérité peut cependant avoir des conséquences imprévisibles, comme le montre l'histoire. Au XVIIIe siècle, les conditions climatiques se détériorent dans toute l'Europe, provoquant une série de mauvaises récoltes. En France, le peuple affamé cherche un responsable et ne tarde pas à le trouver. Pendant que les plus indigents peinent à se nourrir, le roi mène grand train. On crie au complot.
Très régulièrement, en fait, des rumeurs selon lesquelles le roi, des accapareurs, les ministres chercheraient à affamer le peuple volontairement. Donc très souvent, de telles rumeurs resurgissent à des moments de disette, de famine, quand le prix du blé commence à devenir trop cher. Et donc on a vu à plusieurs reprises des paysans s'armer.
Ces fake news avant l'heure conduisent à une vague d'émeutes. Alors que les réserves de nourriture s'amenuisent encore dans toute la France, la foule descend dans la rue. Les émeutiers s'en prennent à des marchés et des commerces alimentaires et se livrent à des pillages. L'épisode entre dans l'histoire sous le nom de guerre des farines.
Ces moments particuliers, ce sont les moments de crise, en fait. Les moments de crise et les moments où le pouvoir est faible, les moments de vacance du pouvoir. Puisque dans ces cas-là, on a en fait un certain nombre de difficultés qui créent de l'instabilité.
La guerre des farines, déclenchée par des rumeurs, annonce la révolution qui entraînera quelques années plus tard de profonds bouleversements politiques et la chute de la monarchie.
Donc c'est surtout dans ces moments de crise, à travers l'histoire, qu'on voit le développement de fausses informations, voire de fake news, voire de propagande. Par exemple, le cas de la Révolution est très frappant. Et pendant la Révolution, il y a tout un tas de fausses nouvelles, de fake news qui circulent dans tous les partis pour soutenir plus ou moins les intérêts des uns et des autres, mais aussi en signe de peur, en fait.
Et cela n'a pas changé. En période de crise, la vérité semble toujours perdre de son importance. La même analyse peut s'appliquer au mouvement des Gilets jaunes. Tout est parti d'une protestation contre la hausse des taxes sur les carburants. Mais certains internautes attisent le conflit sur la toile en diffusant de fausses informations.
On voit par exemple, dans le conflit des Gilets jaunes en ce moment, qu'il se répand beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y aurait une dame belge qui aurait été tuée dans la manifestation de tel jour. Pourquoi ? Parce qu'ils s'informent entre eux, avec des gens qui leur ressemblent, et surtout parce qu'ils ne croient plus un mot de ce que racontent les médias classiques, les médias entre guillemets officiels, mainstream, mass-médias, etc.
La méfiance populaire s'accroît et devient un terreau favorable à de nouveaux mensonges.
Plus ce fait qu'il y a maintenant les réseaux sociaux ou ceux d'en bas, disons, peuvent les somewhere, par opposé aux everywhere, comme on dit en Angleterre, peuvent créer leur propre réalité, leur propre interprétation de la réalité. Donc la conjonction phénomène idéologique, on ne croit plus aux élites, plus phénomène technologique, peut le dire et le faire circuler sur Internet, ça donne un mélange explosif, en tout cas explosif pour les élites.
Bon nombre d'experts s'accordent à dire que les mensonges publics et les fake news constituent une menace pour les systèmes politiques et ne doivent pas être sous-estimés, peu importe qu'ils soient diffusés par les puissants ou par le peuple. Dans tous les cas, ils alimentent une culture du soupçon et déstabilisent les démocraties. Contre cette tendance, il n'existe pas de recette miracle.
Je pense que les fausses nouvelles ne disparaîtront pas. On aura beau mettre en place tout un tas de lois pour les encadrer, elles ne disparaîtront pas, d'autant que ces lois sont très anciennes. Hein. Déjà au XIIIe siècle, on parle du péché de langue qui est condamné. Hein, de la même manière, donc c'est pas la loi qui empêchera la diffusion des fausses nouvelles. Je pense qu'elles continueront à exister. La question, c'est de savoir si les individus et en particulier les citoyens sont à même de les identifier et de ne pas leur apporter le crédit qu'elles ne méritent pas.
Sur la toile, où les inhibitions se diluent de plus en plus, le flot de contre-vérités en circulation n'est pas prêt de se tarir. Tous les spécialistes sont d'accord sur ce point. Au quotidien, chacun ment entre 2 et 80 fois par jour. Un chiffre qui reste constant. Toutefois, grâce à une observation attentive, on peut démasquer certains mystificateurs. La recherche œuvre à rendre le mensonge plus visible et mesurable. Ces travaux pourraient trouver leur application dans les aéroports, au sein de la police ou de la justice. Mais qu'en est-il des puissants? Ils continueront à mentir. Ce comportement semble inhérent au système politique et inscrit dans l'ADN des gens de pouvoir. La science ne permet pas de déterminer si les menteurs ont un nez plus long que la moyenne ou s'ils sont plutôt courts sur pattes. Et la plupart du temps, un mensonge ne fait pas long feu, même si c'est un comportement bien ancré dans la conscience de tous les êtres vivants. La bonne nouvelle, c'est que les capacités cognitives qui nous permettent de mentir nous aident aussi à démasquer ceux qui nous trompent.